Radio Campus, pardon, 88.1.
Il est 13h05 à présent, c'est l'instant invité et interview. Nous sommes en direct avec Pierrette Langlais, chargée de communication à l'université Bordeaux-Montaigne. On est aussi avec Maïlys Leray, doctorante en géographie et ayant participé au concours Ma thèse en 180 secondes, tout comme Pierre-Damien Fougou, doctorant en droit. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Bonjour.
Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour aborder bien sûr le concours Ma thèse en 180 secondes. Et tout d'abord, est-ce qu'on peut expliquer un peu le principe ? En quoi ça consiste concrètement ?
Alors, le principe de ce concours, d'abord c'est un concours international. Et donc dans ce concours, des doctorants présentent leur thèse en 180 secondes à un public profane, diversifié, un public qui ne connaît pas leur domaine scientifique. Donc il faut que les doctorants puissent présenter un travail scientifique à des non-scientifiques. Et donc c'est un concours où toutes les universités françaises et la plupart des universités francophones participent. Et voilà, peut-être que vous voulez compléter.
Je pense que vous avez tout dit. Et ce concours, la particularité de ce concours, c'est, comme elle l'a dit, c'est de vulgariser le sujet scientifique qu'on est en train de traiter en thèse. Et c'est assez particulier parce qu'un sujet scientifique, généralement, se dit qu'il faut forcément utiliser des termes techniques, des termes assez complexes, mais réussir à le vulgariser, du moins à le partager avec des termes extrêmement simples pour les néophytes ou pour les profanes, c'est quelque chose qui déjà est très formateur et qui permet de mieux concevoir, de mieux comprendre même l'aventure de la thèse.
Donc Maïlys Leray et Pierre-Damien Fougou, vous avez tous les deux participé à ce concours. Qu'est-ce qui vous a décidé à y participer justement ?
Alors moi je pense que c'était d'abord le rôle qui est essentiel pour un chercheur de sensibiliser à son sujet de façon très simple et de pouvoir dialoguer avec un public qui n'est pas sensible forcément aux thématiques qui sont en jeu dans ce sujet de thèse. Et le deuxième objectif pour moi, c'était aussi de travailler la façon dont on peut communiquer un sujet face à un public et comment on peut se positionner face à un public. Le jeu d'acteur, comment est-ce qu'il peut se mettre en place, le rôle de l'espace aussi dans la mise en communication d'un sujet. Voilà, tout ça qui était très important.
Et Pierre ?
Alors moi, moi en fait... J'aime beaucoup tout ce qui est éloquence, tout ce qui est art oratoire. Et j'aime beaucoup la scène, d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça même qui m'a poussé à aller dans ce concours. Et je me suis dit, étant donné que je peux, au moins là, faire de l'éloquence sur quelque chose que je fais tous les jours, que je fais d'habitude, pourquoi pas ? En gros, l'éloquence, c'est par la piste d'entrée, par l'entrée de l'éloquence que j'ai découvert ce concours et que je m'y suis intéressé directement dès que j'ai commencé par voir les vidéos sur YouTube. Et... Je voulais aussi, à travers ce concours, parce qu'il faut le préparer, et pour le préparer, il faut aussi faire des recherches supplémentaires sur sa thèse, je voulais réussir à voir comment est-ce que je peux aborder la thèse, mais pas de l'œil du juriste, mais vraiment de l'œil de, comme les juristes aiment le dire, du commun des mortels. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ce concours, il fallait impérativement que je le fasse, et heureusement.
Alors, l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne sont mobilisées sur cet événement. Pourquoi c'est important pour les universités d'y participer et de faire participer les doctorants ?
Déjà, on permet à nos doctorants de participer à des formations. Alors, ce n'est pas forcément des formations exclusives pour le concours. Ça leur servira tout au long de leur vie, quelque part, puisque ce sont des formations à la technique d'écriture, aux techniques d'écriture, la vulgarisation scientifique. Aussi, comme le disait Maïlys, à prise de parole en public, comment captiver un auditoire, travailler les accroches, travailler aussi les chutes des présentations. Donc tout ça, ça peut servir tout au long de la vie. Et puis aussi, la mise en espace, comment capter un auditoire, en gros. Donc nous, ça intéresse les universités de former les doctorants à ça, puisque beaucoup de doctorants se destinent aussi au métier de l'enseignement, et capter un auditoire, c'est très important pour un enseignant. Donc ça fait partie de la formation qu'on propose à nos doctorants. Voilà. Et puis c'est aussi une autre façon de mettre en lumière la science qui est produite vers des publics peut-être un peu plus jeunes, un peu plus éloignés de tout ce qui est activité scientifique. Donc voilà, c'est important pour les universités qui sont investies dans ces domaines de la médiation. Voilà.
Oui, parce que c'est important de le dire, peut-être pour ceux et celles qui seraient intéressés de participer, on n'est pas lâché comme ça dans la nature sur scène. Il y a une formation au préalable. Est-ce que Maëlys et Pierre, vous pouvez nous parler un peu de cette formation ?
Alors la formation, elle est très... C'est une formation qui aide beaucoup, tant par rapport au concours en lui-même, mais même par rapport à la confiance en soi qu'on peut et qu'on doit avoir lorsqu'on prend la parole. C'est, je pense que sur ce point, les universités ont véritablement fait leur boulot. En gros, elles ont mis tous les moyens à disposition pour ça. On a des formations déjà sur l'écriture. Donc, généralement, on écrit déjà ce qu'on va avoir à présenter. Et l'écriture, le texte qu'on aura, le texte finalisé, sera analysé par des experts, des personnes qui viennent du théâtre, de la radio et d'autres environnements également. Et après, on va également faire des formations qui vont donc porter sur la manière dont on va dicter ou dans la manière dont on va incarner ce qu'on va avoir à présenter. Et c'est là où tout se joue, parce que là, on réussit à se découvrir, à voir sur quel tempo est-ce qu'il faut y aller, est-ce que la thématique humoristique, la thématique beaucoup plus sérieuse, est-ce que, en tout cas, c'est très compris, surtout, vu qu'on est dans un exercice de vulgarisation. Donc, on essaie de voir si c'est compris, si c'est compréhensible par rapport au public. Et franchement, l'accompagnement qui est fait, c'est chapeau, vraiment.
Et votre opinion, Maëlys, sur la formation ?
Eh bien, moi, ce que je voulais rajouter en plus, c'est la question de la mise en récit, ce qui peut être aussi important quand on est enseignant, donc futur enseignant, et qu'on fait de la recherche, c'est d'arriver à mettre en récit ce qu'on va transmettre, raconter une histoire autour de ça, et emporter un public dans un récit commun, dans une histoire commune, pour transmettre des choses qui sont importantes, et c'est ça aussi qui est mis en avant dans cette formation.
Alors vous, Maëlys, vous êtes arrivée troisième au niveau régional, si je ne me trompe pas, et Pierre-Damien Fougou, vous avez eu un prix des lycéens au niveau national. Est-ce que vous êtes tous les deux contents de votre parcours dans le cadre de Ma thèse en 180 secondes ?
Oui, moi je suis ravie. En fait, l'enjeu pour moi, il n'était pas de gagner ou de ne pas gagner quelque chose, c'était surtout à réussir à partager un récit qui soit compris et bien transmis. Ce que je pense avoir réussi dans cette phase-là. Donc l'enjeu, il a été validé de mon côté, donc j'étais contente de cette expérience, et puis on a pu rencontrer plein d'autres doctorants qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer quotidiennement, donc c'était ça qui était aussi chouette dans cette expérience.
Je suis totalement d'accord avec Maëlys par rapport à ça. C'est vrai que ce concours nous a ouvert déjà des connaissances en termes de relations. Ça a été extraordinaire, les personnes qu'on a pu rencontrer. Et même sur la manière dont faire de telle sorte qu'un sujet aussi sérieux que le sujet de thèse soit abordé, soit abordable pour le public. Et moi, personnellement, ce sont ces enjeux-là. Parce que généralement, en droit, on se dit que le droit, c'est un terme... Le droit, c'est chiant, généralement. C'est ce qu'on se dit la plupart du temps. Donc, j'avais véritablement pour but de réussir à montrer que le droit, c'est pas si chiant que ça, c'est pas si ennuyeux. En droit, on peut faire de belles choses avec ce qu'on a. On a de véritables enjeux, de véritables défis qu'on peut essayer de mener tous ensemble, essayer d'atteindre tous ensemble. Et pour moi, c'était un des enjeux, surtout, de montrer que le droit, il peut être vulgarisé. Il peut être très intéressant, surtout. Et le prix des lycéens que j'ai eu, ça me conforte beaucoup sur cette lancée parce que je me dis que j'ai réussi à plaire à des lycéens. On voit des personnes qui ne sont même pas encore à la fac, qui ont dit « Ah, ça, j'aime bien, ça, j'ai compris surtout, j'ai compris, j'aime bien. » Et peut-être des personnes qui ont pensé à peut-être faire du droit après. Et sur ça, je pense que c'est un des points forts de ce concours, de réussir à intéresser un public assez simple qui n'est pas un public expert.
Pierrette, vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste revenir sur le fait qu'on était aussi très contents au niveau des universités de pouvoir... donner cette formation en commun avec l'Université de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne, justement pour un peu mélanger toutes ces disciplines et puis que les uns les autres puissent donner leur avis sur les prestations. Voilà, ça désenclave un peu les disciplines et ça fait du bien, je crois, à tout le monde, en fait. Voilà.
Et en parlant de disciplines, on l'a mentionné, donc pour Maëlys, c'est la géographie et pour Pierre, c'est du droit. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos sujets respectifs ? Sur quoi travaillez-vous ?
Je commence. Alors moi je suis architecte, donc ma thèse elle est à la fois entre la géographie et l'architecture, et moi je cherche à comprendre, je travaille dans mon terrain d'études, c'est l'école primaire, et je cherche à comprendre comment la mise en récit des espaces de l'école peuvent devenir une ressource pour sensibiliser les enfants et les enseignants à la question de l'espace et pour qu'ils soient acteurs pour demain de leur environnement proche, pas pour qu'ils deviennent des architectes parfaits ou des futurs architectes, mais au moins qu'ils puissent prendre conscience du déjà-là et de ce qui est proche pour être sensibles à la façon dont ils vont habiter demain.
Et Pierre ?
Alors moi, je travaille sur la monnaie électronique. particulièrement, c'est sur la monnaie électronique, vu en Europe, la manière dont elle est, le mécanisme de la monnaie électronique en Europe et en Afrique. J'essaie d'abord de comprendre ce mécanisme pour voir, déjà de distinguer toutes les monnaies qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique et le numérique, il y en a énormément. Donc déjà de caractériser ce qu'est véritablement une monnaie électronique. Et j'ai une autre, une sous-thématique qui est très, très principale dans ma thèse, et j'essaie de me poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de banque centrale africaine ? Parce qu'en Afrique, il y a déjà de la monnaie électronique qui s'utilise à travers la monnaie mobile. Donc j'essaie de voir si la monnaie mobile pourrait être un instrument qui permettrait aux Africains, aux États africains de se dire, bah, on va créer une banque centrale et on va essayer d'essayer de voir les différents types de monnaie qu'il y a. Essayer de voir avec quel type de monnaie on pourrait permettre à toute la population de participer financièrement aux économies des États.
Alors on a parlé des motivations pour lesquelles vous avez souhaité participer au concours Ma thèse en 180 secondes, mais quelles étaient vos motivations pour poursuivre une thèse, un doctorat ?
Alors en fait moi, je suis diplômée de l'école d'architecture de Bordeaux et après mes études, j'ai travaillé moi pendant plusieurs années dans une association qui regroupe des architectes et qui se pose la question de comment est-ce qu'on peut sensibiliser à la notion d'espace qui finalement... C'est complexe parce que c'est du vide entre deux personnes, c'est une distance entre deux espaces, plusieurs choses. Et j'ai commencé à faire de la médiation autour de cette notion d'espace chez les tout-petits, de la crèche au collège. Et tout ça, ça m'a amené en fait finalement à me poser la question de pourquoi est-ce qu'on peut pas théoriser à un moment donné toutes ces données et se poser la question de la recherche. Voilà.
Et Pierre ?
Alors moi, j'ai commencé quand j'étais au Togo, parce que je suis arrivé en France il y a 4 ans, en 2018. Quand j'étais au Togo, lorsqu'on faisait du droit bancaire, je me suis posé cette première question de « il n'y a pas de banque centrale en Afrique ». Donc je sais qu'au départ, quand je voulais faire une thèse, je savais que c'est sur ça que je voulais que ma thèse porte. Donc après, ce n'est qu'après, étant donné que je m'intéresse beaucoup au monde de la finance, au monde du numérique, que je me suis dit, bah, il y a la monnaie électronique. Et donc j'ai essayé d'allier ces deux éléments. Et c'est la raison pour laquelle je suis en thèse. Et après, quand on est en droit, dès qu'on commence, généralement, on a toujours envie d'avoir la thèse qui est un peu considérée comme le Saint Graal en droit. Donc je ne vais pas mentir que même sur cet aspect aussi, ça a aussi compté d'une certaine manière.
Alors, on le sait, le travail en thèse, ça demande énormément de travail. Et on peut se dire, 180 secondes, c'est un temps relativement court. Mais j'imagine que ce concours demande aussi un grand investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous êtes préparé à faire votre speech lors de ma thèse en 180 secondes ? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de répétitions ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ?
Alors, finalement, ça s'est passé un peu... Pour moi, de la même manière que je travaille la question de la rédaction de la thèse, c'est-à-dire que moi, je passe toujours par le langage oral. C'est-à-dire que je vais raconter les choses avant de les écrire. Et avant d'avoir posé ce texte, j'ai d'abord raconté ce que pouvait dire ma thèse et essayé de me l'expliquer à moi-même à l'oral, donc en m'enregistrant. Et après, le travail de l'écriture, il est venu. Et c'est un peu le même travail que de travailler sur la synthèse en fait, de la rédaction de la thèse, c'est de partir du carnet de terrain et de raconter tout ça à l'oral avant de passer par la phase écrite. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Et ensuite, il y a la partie, moi je fais du théâtre aussi à côté, donc l'engagement du corps dans l'espace, c'est quelque chose que je travaille quotidiennement quand je vais faire du théâtre. Donc il y a ces deux outils-là qui se sont mêlés, donc l'oralité avant de passer par l'écriture, et puis après l'écriture et comment mettre en scène cette écriture par le corps. Je ne sais pas si c'est très, très clair ce que j'ai dit.
C'est très clair. Et Pierre, alors ?
Alors, pour rajouter un peu, c'est le même cheminement que j'ai eu également. Et pour rajouter, je peux distinguer deux types de préparation. D'abord sur le fond et d'autre part sur la forme. Sur le fond, il a fallu faire un choix. Parce que tous les candidats, s'il fallait véritablement qu'on parle de la thèse, en 3 minutes, c'est manifestement impossible. Donc, il a fallu faire un choix sur les éléments qui sont, de un, les plus pertinents, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans une vulgarisation simpliste, mais aussi une vulgarisation très pertinente. Donc, faire un choix donc, sur ces éléments-là et sur les éléments qui peuvent parler à tout le monde. Donc, il fallait donc faire ce choix en tant que condition de fond. Et après, sur la forme, dès qu'on a son texte, c'est un peu comme un formateur le disait, il faut répéter, mais tout le temps. Même dans la douche, il faut répéter. C'est comme ça, il faut d'abord que le cerveau ait le texte en tant que réflexe. Il faut que ce soit un réflexe, donc on répète tout le temps, on se met en situation, on essaie de varier, de changer le tempo, mais c'est un peu ça. Donc d'abord, réussir à circonscrire la chose, à dire que voici ce dont on va parler, réussir à faire son texte, et après, rester dans la répétition continue.
Alors 3 minutes, c'est peut-être court pour parler d'une thèse, mais c'est aussi un exercice qui est plutôt long. On est sur scène, on est devant tout le monde, il y a un public, tous les yeux nous scrutent. Quand on est sur scène, est-ce qu'on joue un personnage ? Quand on parle de cette thèse, est-ce qu'il y a un côté théâtral, un côté jeu ?
Alors évidemment qu'on a tous des rôles, même dans notre travail au quotidien, c'est-à-dire qu'on est dans un costume et on a notre vie personnelle, mais on a aussi notre costume en tant que professionnel. Donc là, on a beau ne pas être au théâtre, parce que l'idée, c'est pas de faire un stand-up, ce qui pourrait être critiqué aussi parfois, je ne sais pas. On met en avant la science, mais évidemment qu'on se met dans le rôle de quelqu'un qui va déclamer une histoire, et on a une partie de nous, mais on est aussi dans le costume de celui qui met en scène son sujet.
Alors moi, par rapport à ça, j'ai plutôt un avis assez différent. Moi, je pense que c'est vrai qu'on joue des rôles généralement, mais par rapport à ça, surtout, je me dis, étant donné que c'est quelque chose qui reflète notre manière de voir la chose, notre manière de voir le sujet, moi personnellement en tout cas, c'est le fait d'y être allé comme je suis, en mettant peut-être en mettant de l'humour, mais également de la finesse, de la subtilité. Je pense personnellement que c'est le fait d'y aller tel qu'on est, parce que c'est comme ça qu'on réussira déjà à rédiger quelque chose de pertinent, quelque chose qu'on comprend et qu'on peut faire comprendre. Et donc je pense que c'est en restant comme on est, sans forcément se mettre un rôle encore supplémentaire, parce que déjà en étant scientifique, il faut qu'on soit dans cette posture-là. Mais je pense que là, vu que c'est une interaction avec le public, le fait d'être comme on est, de dire que voici comment je suis, voici la manière dont je vois la chose, c'est ce qui nous permettrait, je pense, d'être assez authentique, de dire « Ah, ça c'est intéressant parce que je le trouve vraiment intéressant et que je ne fais pas semblant ».
Souvent, la recherche, c'est un travail qui est solitaire. Est-ce que des opportunités comme ma thèse en 180 secondes, vous pensez qu'il faudrait les développer davantage afin que les jeunes chercheurs puissent communiquer davantage sur leurs travaux ?
Oui, mais moi je suis complètement convaincue par le fait d'échanger avec d'autres disciplines, de faire beaucoup plus interdisciplinaire et d'ouvrir surtout la recherche pour qu'elle ne reste pas dans les bibliothèques, mais qu'elle soit transmise d'une autre manière. Mais c'est ce qui est en train de se faire, et il faudrait évidemment que ça se déploie à plus grande échelle et encore plus.
Je suis totalement d'accord avec elle, c'est même ce qui est en train de se faire, c'est parce qu'il y a un réel besoin, déjà dans le domaine scientifique, un besoin de personnes. Il y a des personnes qui s'éloignent directement du domaine scientifique parce que ces personnes sentent ou se disent qu'elles n'ont pas la compétence. Alors que lorsqu'on essaye d'expliquer tout simplement ce qu'est la science, quelle qu'elle soit, juridique, mathématique, etc., il y a des personnes qui vont se dire « Ah, ça j'aime bien, et juste parce que j'aime bien, c'est vrai que j'ai des doutes, mais je vais quand même y aller ». Donc c'est très important de déployer ce genre de système, de donner la parole à des personnes scientifiques pour qu'elles puissent mettre au profit des personnes lambda des informations scientifiques aussi cruciales.
Et au niveau de la recherche universitaire, est-ce qu'il y a d'autres initiatives autour de la recherche qui sont organisées à l'Université Bordeaux-Montaigne ?
Alors, des initiatives grand public, grand public, nous, on participe au nom de l'Université Bordeaux-Montaigne, par exemple, à la Nuit des chercheurs, qui a lieu tous les ans à Cap-Science. Il y a d'autres initiatives comme la Fête de la Science, à laquelle on participe. Tout ça, ce sont des manifestations grand public, hein, ouvertes à tous. Il y a aussi des manifestations plus vers nos étudiants qui sont en premier cycle, enfin qui sont en licence ou en master, par exemple les apéros recherche de la direction de la recherche. Il y a aussi plein d'étudiants en master, hein, qui font leurs propres colloques, qui font mon master en 180 secondes que j'ai vu récemment, des initiatives un peu calquées sur le modèle de ma thèse en 180 secondes, et c'est très bien, et il faut que ça continue comme ça.
En tout cas, la vie de la recherche se déploie et bouillonne. On voit de plus en plus d'initiatives et notamment de vulgarisation pour le grand public, comme on le disait. Est-ce que, Pierre et Malice, vous avez des conseils pour des futurs participants qui souhaitent se lancer dans l'aventure ?
Alors, en tant que des conseils, on n'est pas encore au bout, personnellement, vu que je ne suis pas encore au bout de la thèse. Je ne sais pas si j'ai la légitimité. Bon, on va dire que oui. Des conseils pour se lancer dans l'aventure de la thèse ou de ma thèse en 180 secondes ?
Les deux.
Alors déjà, pour se lancer dans l'aventure de la thèse, il faut être endurant. Parce que bien sûr, il y a la technique, bien sûr, il y a la science, mais c'est surtout de l'endurance. La thèse, c'est un exercice qui, pour une fois, il n'y a pas de discipline rigoureuse établie par l'extérieur. La discipline, elle doit. Il y a de l'autodiscipline. Et sans cette autodiscipline-là, la thèse, elle est vouée à l'échec dès le départ. Donc il faut se connaître et surtout se dire que j'ai envie d'être endurant, je vais essayer de me connaître encore plus et de relever ce défi-là. Après, par rapport à la thèse, comme ma thèse en 180 secondes, je pense que dès lors qu'on a cette idée en tête, dès lors que ça nous plaît, même si on a peur, même s'il y a des doutes, parce qu'il y a plein de doutes, parce qu'il faut se mettre en avant, il faut y aller, et on risque de faire quelque chose qu'on regrettera, on risque de mal peut-être tourner le sujet ou même de se faire critiquer. Mais je pense qu'il faut y aller. C'est aussi ça le travail scientifique. Le fait d'exposer sa personnalité, d'exposer la manière dont on comprend un sujet. Et c'est aussi ça qui fait évoluer la science. Donc je dis à toutes les personnes qui ont l'idée de faire une thèse ou de faire ma thèse en 180 secondes, n'hésitez pas à foncer. Il n'y aura que du bonheur au bout du chemin.
Et Maëlys, vos conseils?
Mes conseils. Alors je pense que déjà... c'est d'avoir un cadre, effectivement, comme Pierre le disait, et d'être très bien entouré. C'est-à-dire que une thèse, un travail de recherche, ça ne se fait pas tout seul. C'est une endurance, mais qui est collective, puisque si on est seul dans une BU, on n'y arrivera pas, je pense. Donc c'est pour ça que la question de l'interdisciplinarité et du réseau à se fabriquer dès la première année, il est hyper essentiel dans le travail de la recherche. Ensuite, c'est ne pas oublier qu'on a des doutes en permanence et que souvent, le chercheur ou le doctorant se sent très, très souvent illégitime. Le syndrome de l'imposteur, il est très fort, je trouve, dans le travail de la recherche. Mais c'est normal et on a des phases comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des phases qui sont complètement déséquilibrées où on avance très bien et puis après, on avance moins bien. Il faut être doux avec soi, mais comme dans la vie. Pour les conseils pour la thèse en 180 secondes, je pense qu'il faut y aller en se disant que on joue pas notre vie, mais que c'est un exercice qui est hyper chouette et même pour arriver à synthétiser, ça fait avancer la réflexion autour de la thèse parce que arriver à synthétiser quelque chose, c'est essentiel et c'est donc foncez-y. Foncer sans crainte, puisqu'il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort. Il faut y aller, quoi. Ça permet de créer du réseau. Et c'est essentiel, je pense, de sensibiliser un large public à la question de la recherche et de la curiosité.
Et après ces précieux et très bons conseils, si on veut s'inscrire, on fait comment? C'est quand le prochain concours? C'est quoi les dates?
Alors, j'ai mon petit papier, aide-mémoire. Donc, pour l'Université Bordeaux-Montaigne, si vous souhaitez vous inscrire en tant que doctorant au concours, c'est avant le 3 janvier. Vous avez toutes les infos sur le site web. À l'Université de Bordeaux, c'est avant le 2 janvier. Et puis, ensuite, il y a aussi l'Université de Pau et l'Université de La Rochelle qui participent dans notre regroupement régional. La finale régionale, elle aura lieu à Pau cette année, le 22 mars. Mais avant, il y aura quelques finales dans nos établissements pour que chacun, on sélectionne 4 candidats pour la finale régionale. Voilà, mais je voulais juste dire que, avant tout, c'est aussi un concours bienveillant. Vous allez rencontrer des personnes très sympas, peut-être éloignées de votre environnement direct, mais vraiment, en général, ça se passe bien et ça fait de bons souvenirs et de bons moments. Voilà.
En tout cas, on peut tenter sa chance et d'ores et déjà s'inscrire. Eh bien, on arrive au terme de cette interview. Un grand merci Pierrette Langlais, Maëlys Leré et Pierre-Damien Fougou d'être venus sur notre antenne, d'avoir répondu merci à nos questions. On vous souhaite une très bonne continuation et on souhaite bonne chance à tous les futurs participants au concours Ma Thèse en 180 secondes.
Merci.
Campus Bordeaux 88.1.
Campus Bordeaux 88.1.